Hey, salut, c'est Frank. T'aimes le podcast du Trio économique? Tu sais pas comment faire pour nous aider, tu veux nous aider? Tu t'abonnes à patreon.com/isénéchal si t'as un petit peu d'argent. Ça te permet d'avoir les podcasts avant tout le monde et aussi ça te permet d'avoir accès à la partie bonus. L'autre affaire que tu peux faire pour nous aider, tu prends ton téléphone et dans Spotify ou Apple, tu as une place où tu peux laisser une note. Tu peux évaluer le podcast. Fais-le, s'il te plaît, donne-nous une note. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de faire connaître le podcast. OK, bon show, là.
Ouais, salut. Va te prendre un trio économique, s'il te plaît.
Yes, on est au poste pour un petit podcast du Trio économique. Là, j'avais comme prévu un nouveau visuel. Finalement, ça coupait la moitié de la tête à Yann. Puis on voyait plus Vincent. Ça, c'était comme le bout correct là, de l'histoire. Ouais, c'est ça. C'est on cherche à être en amélioration continue. Comme le faisait remarquer Yann sur les réseaux sociaux, on est rendu, je pense, à 3000. C'est quoi tu as dit? 3500?
3500 auditeurs réguliers pour le podcast dans les deux derniers mois à peu près. Là. Les 8 derniers épisodes ont une moyenne de 3500 écoutes.
Bon, ce qui est quand même plus que...
3500, c'est
Sadomaso. Exact. Ce qui est quand même plus que beaucoup d'émissions de variété qu'on a un petit peu partout dans des canaux de télé ou des postes de radio secondaires. Fait que c'est quand même bon. Un jour, on aura la reconnaissance qui vient avec. Mais...
Ouais, la seule différence, c'est que nous autres, on fait 35$ par épisode. Avec
ouais, c'est ça. La seule différence, c'est que Saint-Hubert ne veut pas nous commanditer pour le moment. Fait qu'on on va être correct. Mais moi,
on ne les a pas demandés.
Non, c'est ça. On les a pas demandés, mais moi, je lance un appel. T'sais, s'il y a quelqu'un qui a un restaurant qui fait un excellent steak and egg, on pourrait. Moi, je dis que ça pourrait être le porte-parole de l'émission.
Je peux même l'endosser s'il est dépendant. Je dis
que ça serait drôle. Il y a il doit y avoir une bénérie quelque part là, qui serait intéressée à.
N'importe qui veut. Écoute, vous avez juste à me payer avec un steak and egg. Vous allez me donner de l'argent au saut.
Ouais, c'est ça. Vincent, s'il faisait de la politique, ce serait le gars. Tellement facile à corrompre. Il y en a que c'est des billets pour le Canadien. Lui, c'est juste genre, il y a une boîte en styrofoam qui arrive avec un steak and egg. Il est comme genre, c'est bon, tu vas l'avoir. Là, ton
mais enfant. T'en veux-tu une comique avant que tu passes la clip que tu veux passer?
Ouais.
Je vais te conter une anecdote. À un moment donné, il y avait un lobbyiste qui voulait que j'écrive. Yann et moi, on le connaît d'une époque dans le passé. Je ne vais juste pas nommer de nom parce que il y a des choses qui se conservent. Le lobbyiste voulait que j'écrive un certain texte dans le Journal de Montréal quand j'avais une chronique. J'y avais pas dit que j'avais déjà décidé que j'allais écrire là-dessus. Puis que j'avais déjà écrit ma chronique, je l'avais déjà soumis. Mais il m'a invité à aller à la Old Dominion Tavern à Montréal, de me payer un repas, puis tout, puis tout, puis tout, de manger sur le bras de son client. J'ai été manger sur le bras de son client. Puis il me dit, ben, tu veux-tu parler du dossier? Je dis, non, j'ai déjà décidé que j'allais écrire, j'ai juste pris le free meal.
C'est pas pareil, hein, parce que t'es pas le seul au Québec à avoir eu un free meal d'un lobbyiste, des affaires de même. Hein.
Non, mais l'affaire, c'est que ma règle à moi, c'est que je vais pas écrire ce que. Si, voici ce que moi je vais écrire, point barre. Puis si ça t'intéresse de me donner de l'argent pour, go for it, man. Lâche-toi là, mais je vais pas changer ce que j'ai à dire pour toi.
Non, exactement. Non, c'est clair. Mais il y en a, on sait qu'il y en a qui le feraient.
Ah ben, je peux dire c'était qui son client, par contre, ça me dérange pas. Son client, c'était Mélanie Joly.
Ouais. Du temps qu'elle était en politique ou...
Du temps qu'elle était en politique municipale.
Ah ouais.
Ah oui, elle était en politique, mais j'avais oublié ce détail-là, c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, elle est rendue... Aujourd'hui, elle s'est quand même rendue une politicienne de haute voltige. Là, elle
oui,
combat Poutine en
parce
live.
Que, parce que clairement, être quoi, là, elle est ministre des
Affaires étrangères.
C'est ça. J'allais dire Foreign Affairs, mais j'étais là. C'est pas le mot en français. Mais
C'est quand même incroyable, pareil, pour finir sur elle, parce que ça ne sera pas le sujet du podcast. Là. Mais je me souviens que Mané était dans un truc.
On n'a pas grande substance sur laquelle.
Non, c'est ça. Mais Mané était dans un espèce de truc qu'il avait fait avec PSPP. C'est là qu'on les a connus, ces deux-là.
Vincent a eu un steak and egg de Mélanie Jolie.
Ça va être ça le titre.
Le Old Dominion, pour ceux qui savent c'est où à Montréal, le Old Dominion Tavern, ils font pas de steak and egg.
Ah. Mais c'est ça, elle était dans un genre de truc elle, avec PSPP qui s'appelait, je pense, Les Orphelins Politiques ou un truc de même.
Mais c'est
drôle, pareil, qu'à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il est un orphelin politique, 3 mois plus tard, il est rendu dans un parti. Moi, ça me... Tout le temps, tu sais, parce que c'était ça, hein, PSPP et Mélanie Joly, Les Orphelins Politiques. Elle se ramasse avec Trudeau, puis lui, il se ramasse avec Jean-François Lisée. Bon, en tout cas.
Comme... Mais le problème, c'est que la plupart de ces gens-là ont des illusions d'adéquation. Qui pensent qu'ils sont très, très bons ou même qu'ils sont suffisants et alors qu'ils ne le sont pas. Et ils pensent que c'est brillant de dire qu'ils sont des orphelins politiques, comme si ça leur donnait une sorte d'aura qui venait avec. Mais si vous voulez rencontrer un vrai orphelin politique puis qu'il veut le rester, il est dans le podcast.
Ouais, c'est ça. Allez, on y va avec un petit extrait de ça date d'aujourd'hui, en fait, au moment où nous on enregistre, pas au moment où vous écoutez, parce qu'on n'est encore pas capable de voyager dans le temps. Peut-être que ça viendra avec la technologie, mais pour l'instant, on n'est pas encore capable. C'est en chambre, c'est un échange entre un gars du PQ dont j'ai oublié le nom et notre cher premier ministre au sujet des cibles d'immigration du gouvernement fédéral. J'ai l'impression, moi, que ça va faire sourciller Vincent. Parce
écoute
qu'on en
vraiment déjà... ça, mais je te paye pour que tu écoutes cette merde-là.
Ben oui, mais t'as-tu vu les affaires que je sors de là, moi, quand même?
C'était productif, j'ai pas de trouble avec ça. la rentabilité est là, mais man!
Ouais, ben,
je pense que c'est la preuve qu'il faut que tu le payes plus. Tu sais, on avait l'épisode sur les emplois déplaisants. Doivent être rémunérés davantage.
Mais
moi, je pense que c'est déplaisance.
Ta gueule, c'est moi qui paye.
Oui, mais dans notre prochaine discussion là-dessus, moi, je voulais me quêter un truc de programme d'aide aux employés pour soutien psychologique. Là, pour,
puis le pire, c'est pas parce qu'on t'abuse. Il n'y a personne qui abuse, Frank, si juste ça soit clair. C'est juste que c'est un. Écoutez des gens qui ont moins d'intelligence que Frank, ça doit être pénible pour lui.
Tous ces gens-là,
les gens, il y a des gens qui les admirent et qui leur donnent du pouvoir.
Ouais, tout du monde qui ont plus...
abusif,
ouais, tout du monde qui ont beaucoup plus de pouvoir que moi en plus. Là.
Je tiens à souligner que ça n'a jamais fait partie de sa définition de tâche. Il a fait ça de façon volontaire.
Bon, ben écoute, il y a 10 ans qu'il y a des gens qui sont dans le sadomaso.
Donc, on y va. Je vais essayer de vous mettre ça en plein écran parce que quand même, il faut. Faut en profiter. Donc, c'est M. Arsenault, les gens là, avec des masques à côté, on ne sait pas trop c'est qui, là, mais voici l'extrait.
Le gouvernement Trudeau veut hausser ses cibles en matière d'immigration de 80 % par rapport à 2015 pour atteindre 451 000 nouveaux arrivants par année en 2024. Pour le Québec, ça veut dire 120 000 nouveaux arrivants de plus. C'est le triple de l'objectif fixé par la CAQ à 40 000 nouveaux arrivants. Sachant que l'actuel gouvernement échoue déjà à accueillir et à accompagner décemment les nouveaux arrivants dans leur projet de vie au Québec et que le premier ministre disait vouloir en prendre moins, mais en prendre
plus. Madame qui fait des signes est plus intéressante.
On peut dire que vraiment l'augmentation des seuils, ça va dans la bonne direction. Étant donné notre capacité d'accueil qui est déjà saturée, est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'on pourra tripler d'ici 2 ans le nombre de nouveaux arrivants? Par ailleurs, l'accord Canada-Québec sur l'immigration oblige, Monsieur le Président, le gouvernement fédéral à consulter le Québec sur la question de l'immigration, incluant la présente hausse.
J'ai dit qu'on avait 3 500 auditeurs, Christy.
J'ai deux questions simples pour le Premier ministre.
Attends, réponds.
Est-ce que le gouvernement Trudeau a rempli ses obligations et consulté le gouvernement du Québec? Et ma deuxième question, est-ce que le Premier ministre est d'accord pour tripler les seuils?
Pourquoi tu en poses deux questions? Il répondra même pas à la première.
Monsieur le Président, contrairement au Parti libéral, au gouvernement de la CAQ, on ne veut pas augmenter le nombre maximum d'immigrants. On est à 50 000, puis on veut rester à 50 000 par année. Maintenant, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est que dans ces 50 000, il y en a plus qui parlent français. Le Québec, actuellement, contrôle 57 % d'immigration, qui est l'immigration économique,
On a réussi en 3 ans à faire passer le nombre de personnes, le pourcentage qui parlent français, d'à peu près 50 % à 80 %. Reste un gros problème qui est dans le programme de la CAQ, c'est de récupérer la sélection du regroupement familial. C'est 26 % des immigrants. Moi, je pense qu'il y a une majorité de Québécois qui souhaiteraient que ce soit le gouvernement du Québec qui fixe les conditions pour la catégorie regroupement familial. J'espère que le Parti québécois va nous appuyer dans cette demande-là.
Attends un peu, présente ça en disant que c'était intéressant.
Attends, il faut au moins qu'on résume bien des affaires pour les gens. Il y a bien des moving pieces qu'il faut expliquer. Un, l'accord immigration Québec-Canada, c'est qu'en 91, le Québec a eu un droit de consultation puis de contrôle et de regard sur une certaine proportion des immigrants qui sont acceptés au Québec.
Mm-hmm.
Deuxièmement, il y a une division de qu'est-ce qui est accepté ou non. Donc, par exemple, le Québec n'a pas de droit de regard sur les réfugiés, mais il y a un droit de regard sur certaines autres composantes. Donc, là, au moins pour que les auditeurs comprennent, ça, c'est l'accord qui est mentionné là-dedans.
Oui, absolument. Mais moi, mon point, c'était, bon, le gouvernement fédéral, là, bon, qui se fixe des objectifs. Déjà, est-ce que c'est la job du gouvernement de fixer des objectifs en matière d'immigration? Je pense pas, là. Mais là, toute cette grande histoire-là, parce que là, ça a endormi un peu là, les gens, là. Mais toute cette grande histoire-là, là, c'est ça ramène à, ben là, les Québécois sont d'accord à ce que le gouvernement décide qui émigre ici, puis quelle langue qui parle là. Puis, mais ça, quand est-ce ça que ça a été décidé, ça? Qui ça? Y a-tu quelqu'un qui s'est fait demander son avis là-dessus? Là? Moi,
écoute, je vais être honnête avec toi. Moi, ça me dérange pas tant que ça que... Puis je le vois... Parce que chaque fois qu'on parle d'immigration, tu te souviens, chaque fois, on fait comme la liste de toutes les répliques que les gens ont anti-immigration, puis je dis d'accord. Mettons, voici les faits. Puis souvent, les faits vont pas du tout avec ce qui est dit dans l'opinion publique. Par exemple, les immigrants parlent pas le temps le français, ils s'intègrent pas, alors qu'on voit que le français dans les milieux de travail est en progression. Il faut vraiment que tu fasses des études vraiment...
Ils veulent juste des chèques de BS.
Oui, oh oui, des choses, toutes ces mythes-là, ça ne tient pas. Mais mettons souvent, ce que je dis, c'est disons que j'avais tort. Disons que factuellement, j'avais tort sur ma réponse à ton affirmation. Il y a des réponses qui sont des keyhole solutions que tu peux faire. Donc, disons que tu limites l'accès aux programmes sociaux pour les immigrants pour une certaine durée. Ou tu leur fais payer une taxe à l'entrée de telle sorte à ce qu'ils payent pour une partie des services qu'ils vont consommer.
Oui, mais Vincent, ils volent nos jobs.
Ça, c'est... Ben, mettons que tu dis qu'ils volent des jobs. Ben, si ça avait un problème, prends une partie des revenus d'extra qu'ils font puis donne-le aux natifs qui perdent des jobs. Si c'est ça ton argument, il y a toujours des réponses. Puis si, généralement, quand tu n'es pas satisfait de la proposition que je te fais qui permet d'avoir les bénéfices de l'immigration en réduisant ce que toi, tu appelles des coûts, puis tu es toujours contre, je pense que tu es de mauvaise foi quand tu fais cet argument-là. Mais une des réponses...
C'est une ceinture fléchée.
Oui. Ou, mais quand ils parlent du français... Mettons qu'on leur disait, puis là, ça serait vraiment le test de la bonne foi politique des partis impliqués. Là. On dit, OK, d'accord, on va imposer un critère qui dit que non seulement tu peux immigrer plus vite au Québec si tu parles français, mais aussi qu'après 5 ans, il faut que tu te conformes à X niveau de français qui peut être fait. Et c'est tout. Mais par contre, on ne limite pas le nombre d'immigrants qui rentrent.
Ouais.
Si tu es d'accord avec moi, tu dis « OK, d'accord, moi, ma
ah, ça ne marche pas, ça. À un moment donné, il y a un clown comme moi qui va dire hey, « on peut-tu faire passer le test de français aux Québécois? » On ferait le saut.
Si c'est ça la position que tu veux avoir, fine, mais si elle n'est pas incohérente, c'est ça l'affaire, mais si la personne dit « oh non, mais je veux quand même limiter le nombre. » OK, donc ce que tu cherches, c'est que tu utilises le point du français comme un « cover » pour une autre position que tu voulais défendre indépendamment. Ouais. Donc, ta justification est une justification pour... C'est comme tu as créé un problème pour ce que tu... Un problème qui est comme pour cacher ce que toi, tu penses être le vrai problème.
Mais moi, ce qui me fait capoter là-dedans, là, c'est que deux affaires. Un, en 2022, on est encore en train de mettre la langue au top des critères là, pour l'immigration, alors que dans me semble que, en tout cas, je sais pas, pour les entreprises, c'est peut-être un critère, mais c'est certainement pas, dans tous les cas, le critère le plus dominant.
Mais là, si on fait ça, là, Sophie Durocher, C'est livreurs de Uber Eats, puis DoorDash, puis Post Canada, là, quand ils vont y porter des colis, ils vont être capables d'y parler français?
Ouais, ben c'est ça. Là. Ça, ça a l'air à bien la préoccuper. Mais moi, ce qui me faisait... C'est l'autre affaire que je disais qui me dérangeait là-dedans, c'est que au même moment où le Parti québécois dit... Parce que là, je vous ai passé bien des bouts, là, mais ce qu'ils disent dans l'extrait... Ce que le gars du PQ dit dans l'extrait, en gros, dans l'échange, c'est qu'eux, ils sont pour faire baisser les seuils d'immigration au Québec. Au même moment, sur la scène fédérale, on a un autre parti qui est l'homologue du PQ, qui s'appelle le Bloc québécois. Eux, savez-vous ce qu'ils disent? Au même moment, eux, ce qu'ils disent, c'est que là, c'est un scandale qu'on va redessiner la carte électorale et que le Québec va perdre un député parce que notre croissance démographique est inférieure à celle des autres provinces. Donc, pour résumer, au Québec, il y a 78 sièges. Le nombre de sièges va en fonction du nombre d'habitants dans la population. On est 23 % de la population canadienne. On a 23,25. Là. Tu sais, c'est quand même assez représentatif. Les prévisions démographiques montrent qu'on va être 22,4 %, ce qui fait passer de 78 à 77. Et évidemment, on va descendre. Et qu'est-ce que le Bloc dit? Il dit non, mais ça, c'est pas correct. On devrait capé à 25, puis le Québec, peu importe ce qui arrive, là, démographiquement, nous autres, on devrait avoir 25 % des sièges. Au même moment.
Là, on refuse les immigrants, mais on garde la représentativité.
Et là, suivez-moi, parce que ça va être le dernier bout de la boucle. On revient au Québec. Au même moment où le PQ demande ça, que le Bloc demande ça, qu'est-ce que fait le PQ? Il reproche à Legault de ne pas avoir instauré le vote proportionnel.
J'ai pas de malaise à voir que le Bloc et le PQ, c'est pas la même affaire. Là.
Ouais, mais les gars, sérieusement, vous essayez d'analyser pour trouver une logique dans l'argumentation pour l'immigration, tout ça, donc de parler de la politique publique qui est proposée comme telle. La réalité est tout autre. Ce qu'on essaie vraiment de faire ici, là, c'est aller chercher le vote des bonhommes pas dedans qui n'aiment pas les étrangers.
Bon, Yann fait son pas généreux.
Non, mais c'est ça, Vincent. Là, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre que ça. Là.
C'est, je sais pas, pour les bonhommes là-dedans, là, j'exagérerais pas autant. Mais
non, il y a des madames aussi.
C'est un appel au vote nationaliste. Et,
nationaliste, contre, c'est plus que nationaliste. C'est le monde qui n'aime pas les étrangers, Vincent.
Mais je veux juste vous signaler que la semaine passée, il y a quelques jours, il y avait un vote en France et les gens qui tiennent exactement le même discours que ça, on nous a dit que c'était l'extrême droite. Je vais vous le dire. C'est le même discours. C'est exactement le même discours.
C'est pas nationaliste. Le nationaliste, c'est être fier de sa nation, c'est être fier de ce qu'on est.
Là, Vincent, pas.
Non. Il n'y a rien de nationaliste là-dedans. C'est des fucking racistes, ce monde-là, puis ils veulent le vote.
C'est pas ça mon point. Je suis pas sûr que je suis confortable avec l'amalgame que Frank vient de faire. Marine Le Pen puis François Legault, si je les regarde en termes d'immigration, les deux veulent aller dans la même direction de moins d'immigrants, mais il ne faut pas se le cacher. François Legault ne dit pas du tout la même chose au même degré.
Ouais,
il veut aller dans la même direction d'en avoir moins.
Le PQ dit la même affaire.
Ajoutons le PQ à ça, mais je ne suis pas sûr que je ferais l'amalgame. Dire, peut-être qu'il y a des similarités, mais les similarités sont uniquement directionnelles. Je veux dire, ce n'est pas le ministère de la rémigration d'Éric Zemmour, ce n'est pas l'immigration zéro ou la fin de l'immigration économique, la fin des réfugiés. Je veux dire, c'est pas...
C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est
Mais philosophiquement, je suis d'accord de dire qu'en nature, la nature fondamentale est la même. C'est juste qu'il y en a une qui est exprimée à un degré plus avancé que l'autre, mais je vois pas de différence.
Oui, mais sont exprimés à des degrés différents parce que la réalité est différente aussi. Parce qu'au Québec, on va se le dire, en dehors de l'île de Montréal, l'immigration, c'est même pas visible. C'est la réalité aussi. Là.
C'est de moins en moins vrai. Là,
C'est de moins en moins vrai, mais je veux dire, quand tu vas en France, même dans des places très reculées, c'est pas la même game.
Ouais, mais écoute, juste un commentaire rapide sur la France. Moi, je comprends pas les gens qui ont une opposition à l'immigration quand ils voient les banlieues comme Roubaix ou des choses comme ça en France et qui disent ça, c'est parce qu'il y a des immigrants. Mais je veux dire, je m'excuse, mais étant historien économique, je le vois souvent, les anciens ghettos d'immigrants que les gens soulignaient dans le passé. Mais de nos jours, tu regardes ces ghettos-là, ils sont intégrés, les gens se sont intégrés. C'est qu'est-ce qui manque pour que la ségrégation, à toute fin pratique, qui peut être dans ce cas-ci volontaire, c'est-à-dire qu'un groupe décide de ne pas interagir avec l'autre, de rester cloîtré avec les gens qui sont similaires, c'est peut-être parce que tu mets des barrières à l'échange économique entre les deux groupes, de telle sorte que tu as une ségrégation effective qui se produit.
Ouais, mais ça c'est pas des problèmes québécois, ça, là. Je veux dire, il n'y a pas de ségrégation de même.
Non, mais ségrégation, le mot est peut-être trop fort, mais ce que je veux dire, c'est le marché du travail en France est tellement réglementé, l'entrepreneuriat est tellement réglementé que tu essaieras d'avoir une chance d'un immigrant qui n'est pas familier avec les institutions françaises de se trouver un emploi, de s'intégrer économiquement, d'interagir avec des gens qui sont différents de lui, d'avoir un chemin de l'assimilation.
Dans le service à la clientèle, je suis rendu raciste moi aussi, mais un raciste envers les Québécois. La dernière fois, je me suis fait servir un McDo comme du monde rapidement, là, c'est une équipe entièrement philippine qui me l'a donné. Je veux dire, à un moment donné, là, on va se mettre les yeux en face des trous. Là. On manque de main-d'œuvre dans des services clés. On a une terre d'accueil qui est fantastique. Pour la plupart des pays sur la planète, le Canada et le Québec, c'est un rêve de venir vivre ici. Puis nous autres, on veut le garder pour nous, puis on ne veut pas le partager. C'est que ça, l'histoire. Là. Mais la game, présentement, c'est qu'on manque de bras pour tocher des culs des petits vieux dans les CHSLD. On peut-tu arrêter de s'ostiner avec les affaires d'immigration? On a besoin d'aide. Notre démographie, elle nous pénalise présentement. Mais on veut le vote raciste.
Non, mais juste pour souligner quelque chose, l'assimilation politique des immigrants et de leurs descendants est ce qui détermine le plus cette assimilation, ça n'a aucun lien avec des trucs comme des politiques linguistiques. Il y a des effets des politiques linguistiques. On a des petits exemples comme j'ai les Catalans. Mais les effets sont mineurs quand tu compares avec l'effet de liberté économique. Ah oui. Donc, le fardeau réglementaire, le fardeau de fiscalité. Écoute, j'ai écrit dans Google Scholar, parce que c'est toujours la chose que les gens devraient faire.
Pour prendre un exemple imagé, Vincent, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas en forçant les gens à leur donner des prénoms français, mettons, exemple que je prends à tout hasard. Que tu vas les inclure plus facilement dans la société. C'est en leur donnant une job.
En leur donnant une job ou aussi en leur offrant un chemin pour lequel. Parce que une des vertus de la liberté économique, c'est pas juste que ça. Tu as un bien-être matériel qui est causé, c'est que par l'échange, tu te mets en interaction avec des gens différents, tu apprends comment ils vivent, mais tu apprends aussi à t'ajuster à eux. Donc, l'assimilation a un lien avec la liberté économique. Donc, comme je te dis, j'étais sur Google Scholar, j'ai écrit Economic Freedom, Immigration, Assimilation. Puis les quatre premiers articles parlent tous des déterminants de la liberté économique, donc les cinq composants de la liberté économique, droit de propriété, liberté d'échange international, réglementation, fiscalité, et j'étudie droit de propriété? Droit de propriété. Politique monétaire, c'est ça qui me manquait. Tu prends les indices de la liberté économique et plus la liberté économique est importante, plus les immigrants s'assimilent rapidement à leur communauté d'accueil et ressemblent de plus en plus aux gens qui les ont accueillis.
Donc, si
tu te plains de l'immigration, ce que tu es vraiment en train de te plaindre, c'est des politiques publiques que tu as adoptées qui appauvrissent ta communauté d'une part, parce que c'est ça que ça fait de trop réglementer et de trop taxer. Mais en même temps, ce que tu fais, c'est que tu rends ça plus difficile de t'ajuster à des changements qui sont importants et qui peuvent être, si tu ne réglementes pas trop, bénéfiques pour la société en général.
Moi, je reviens à ça. Vous parlez de ça comme s'il y avait un débat de société, alors qu'il n'y en a pas. La seule chose qui existe, puis il faut être honnête, c'est des votes identitaires de droite. Parce que c'est ce que c'est, là. C'est rien d'autre que ça. J'ai été dans un parti politique qui est l'ADQ. Puis, il y avait des positions qui étaient toujours votées dans ce sens-là parce que c'est de l'identitaire de droite. Puis moi, j'ai toujours été contre ces affaires-là. Quand on arrivait au réseau Liberté Québec, il y avait des gens qu'on mettait sur le stage qui avançaient ce type d'idées-là parce que c'était des idées identitaires de droite. Mais le Parti québécois et la CAQ de ce côté-là, C'est des politiques de droite identitaires qu'on met de l'avant. Puis c'est ce vote-là qu'on veut. Pourquoi on veut ce vote-là, autant chez la CAQ que le PCQ? Parce que si vous me demandez quel bout du programme du PCQ qui est absolument stupide, c'est le bout de la compatibilité.
Je me rappelle civilisationnel ou je sais pas trop. Là.
Cochonnerie. Crissez-moi ça au vidange.
Le pire, c'est que c'est tellement une ligne vacueuse là, de dire la compatibilité. C'est qui a décidé?
Ça vient pas de, ça vient pas du UEM en passant, ça a été voté par les membres, je pense.
Exactement, c'est exactement ça.
Je m'en fous. Mais qu'est-ce que ça veut dire comment
ça veut rien dire.
Comment tu définis ça?
C'est un raciste qui essaye de se mettre le petit doigt dans les airs et pas avoir l'air raciste. C'est du racisme. Institutionnalisé. C'est ce que c'est, il faut le dire ouvertement. Puis ça, ça, moi, j'ai toujours été contre cette position-là. Je sais que ça ne vient pas d'Éric. Éric n'est pas de même. Il y a zéro ça en dedans de lui, mais il y a des militants dans la salle qui sont de même. Puis il y a des militants du temps de la DQ qui étaient de même. Puis il y a des militants au PQ qui sont de même. En fait, le parti qui en a le plus, c'est le PQ. Là. On va tous comprendre ça un jour, j'espère. Là. Puis à la CAQ, il y en a également. Québec solidaire, en as-tu vraiment? Peut-être. Il ne doit pas en avoir.
Ouais, mais. La minute que Québec solidaire va se rapprocher du pouvoir, je te garantis qu'ils vont...
Ils vont vouloir
ils vont arrêter de parler d'immigration.
Puis les libéraux n'ont jamais été de même non plus. Puis la force du vote ethnique libéral vient exactement de là. Ils ont jamais été joués sur ce territoire-là. Puis là-dessus, bon, c'est un parti politique. Ils sont putes comme tout le monde. Mais pour ces questions-là, je suis obligé de leur lever leur chapeau parce que je ne considère pas que c'est des politiques qui sont nécessairement acceptables dans le sens que il n'y a pas de grand débat. Mettons Mathieu Bock-Côté, qui est peut-être la seule personne qui arrive à en parler d'une manière intelligente. Les autres personnes au Québec qui parlent de ces sujets-là, c'est pas parler de manière intelligente. On utilise des grands mots pour fucker le chien un peu, là. Mais ce qui
se passe. Surtout qu'on veut mettre l'État là-dedans. C'est tout le temps.
Exactement.
En fait, l'immigration. Moi, mon feeling à moi, c'est que partout sur Terre, pratiquement, où on jase de ça, de un, c'est pour flatter un certain électorat, et de deux, c'est toujours un prétexte pour renforcer le contrôle de l'État sur des trucs où il devrait pas se mettre les mains.
Ouais.
Parce que clairement, on la voit, c'est quoi? C'est pour ça que je vous ai mis l'extrait. C'est pas ce qu'ils disent, c'est pas intéressant. Mais ce qui est révélateur, c'est de un, qu'on ait encore ce genre de débat-là en 2022, et de deux, c'est le fait que pour le premier ministre, là, l'enjeu de ça, là, c'est une chicane à savoir qui va décider quoi. Dans le fond, l'immigration, c'est un prétexte pour aller se battre avec un autre palier gouvernemental. Exactement. Pour rapatrier des pouvoirs et éventuellement rapatrier des jobs ou créer des nouvelles jobs dans un ministère là, qui va être appelé à gérer ces trucs-là.
Mais je te garantis une chose. Si le Québec était souverain, il y a probablement plus d'immigrants qui seraient acceptés. Parce que présentement, le Québec a comme l'avantage de pouvoir s'opposer aux politiques d'immigration du fédéral sans en payer la totale facture ou de se priver de l'entièreté des bénéfices. Puis mais pour revenir à QS.
C'est assez solide cette photo-là, on va se le dire. Pour ceux qui ne voient pas, qui écoutent sur Spotify et puis Apple Podcasts et compagnie, Vincent m'a partagé dans notre chat privé un lien, puis je l'ai fait apparaître à l'écran. Et dans ce lien-là, c'est un article du Huffington Post, et la photo qu'on voit au centre, c'est Manon Massé. Qui a à sa droite, oui, Vincent, et à sa gauche, je ne sais pas exactement c'est qui, ce madame-là, là, Diane Guilbeault.
Qui était de la Ligue des immigrants. La Ligue des droits humains ou quelque chose comme ça, j'oublie le nom exact.
Mais sur ces thèmes-là, Québec solidaire n'ont jamais été trop dans le champ, honnêtement.
Non. Écoute, dans le débat, parce que ce que j'ai envoyé, c'était un débat qu'il y avait eu à Radio-Can, puis ça se faisait en deux parties, puis c'était dans le débat, je m'étais ostiné avec Manon Massé. Et Manon Massé. C'est là que j'ai réalisé que quand j'ai dit il y a deux minutes que Québec solidaire, ça leur prendrait très peu pour en venir à adopter une position anti-immigration. Manon Massé, dans le débat, elle lance une ligne qu'on accepte les immigrants au Québec pour les exploiter. Puis c'était vraiment ça qui s'était dit. Puis regarde, j'ai la quote.
Ouais,
on
ne
veut pas que les immigrants nous choisissent parce que c'est du cheap labor. Ce qu'on souhaite, c'est d'améliorer les conditions de travail, par exemple, un salaire minimum de 15 $ par heure, et d'ouvrir des jobs gouvernementaux aux immigrants. Il n'y a personne qui est contre que les immigrants travaillent pour l'État. Mais son point de départ, c'était que...
On voulait les exploiter.
On voulait les exploiter. Donc, la seconde qu'on va...
Hey, tu donnes une job, à quelqu'un, là, sérieux Vincent, quel argument de marde. Je veux dire, tu donnes une job à quelqu'un, tu viens d'améliorer sa situation, pas de 10 % de 15 % de 30 %. Tu l'as multiplié par 10, comme tu viens de dire. Tu as carrément multiplié son niveau de bien-être, son niveau de richesse personnelle par tu un facteur
décuplé.
Important.
Non, décuplé.
C'est l'enfer. Là. Puis là, tu dis... La seule raison pourquoi on veut des immigrants, c'est pour les exploiter. Me fucking niaisez-vous, sacrifice.
Non, mais c'est pour ça que, excuse Vincent, je veux juste faire un point là-dessus. C'est pour ça que moi, j'en reviens deux secondes, vous allez comprendre le lien à l'histoire de l'élection française. C'est que moi, je parlais de ça à des gens. Ils me disaient non, mais ça, c'est par rapport aux liens que tu fais parce que le discours que Marine Le Pen tient sur l'immigration, c'est un discours d'extrême droite, là, typique des partis européens. Je disais, mais c'est juste toi qui manque. Un petit peu de recul historique, parce que le discours qu'elle tient, c'est exactement le discours que les gauchistes français tenaient dans les années 60-70, dont un gars qui s'appelait Georges Marchais, qui était le chef du Parti communiste français. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? C'est lui qui a amené ce discours-là en France. Les immigrés, c'est le grand patronat qui est fait venir pour faire peser à la baisse sur les salaires. Comme ça, on va pouvoir continuer d'exploiter les pauvres.
Puis ben, lui, j'ai la quote de Marchais, c'est tellement bon.
C'est pas moi qui l'a inventé, Vincent.
Non, je cherche la quote parce que je m'en rappelle. Georges Marchais déclarait à la télévision que 5 millions d'immigrés, c'était trop.
Oui, et puis il disait là-dedans, puis ça, même ça a été un liner qui a été repris par Jean-François Lisée quand il a essayé d'être chef du PQ.
Ouais,
il allait jouer là-dedans, puis
il
est allé dire à tout le monde en parle que l'immigration, là, c'est voulu par les gens de droite parce que dans le fond, ça permet de prendre du monde qui gagne pas. Ce qui est de la complète bullshit, parce que les gens qui viennent, ils vont être payés le même salaire que les autres. Là. Tu peux pas lui donner 2 piastres de l'heure. Comme si on était d'un pays.
Si on comble les postes, ça empêche les entrepreneurs d'être obligés d'augmenter les salaires. La conséquence, c'est pas qu'il y a des entreprises qui vont fermer par manque de main-d'œuvre. Hein. Ça s'est jamais vu dans les 2 dernières années, des entreprises qui lancent la serviette et qui disent hey, fuck it, là, je suis tanné, j'ai plus de personnel, puis ils ferment la shop. Là.
Juste pour le fun, j'ai envoyé à Frank peut-être la chose qui devrait clore le débat sur les gens qui pensent que c'est juste l'extrême droite qui est capable d'être anti-immigration. Éric Zemmour se compare à Georges Marchais sur l'immigration. Éric Zemmour, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'extrême droite française. Georges Marchais, c'est le secrétaire général du Parti communiste français dans les années 70 et 80. Puis c'est lui qui était quand Brejnev avait attaqué l'Afghanistan. Il avait dit « Je ne vois pas de problème, c'est une bonne chose, il faut la rapporter. » Il était devenu, puis que les gens avaient ri de lui à cause qu'il avait été presque le porte-parole officiel de Moscou en France. Ça lui avait coûté cher, d'ailleurs, à la présidentielle de 81. Mais communiste Georges Marchais, extrême droite Éric Zemmour, même discours. Je pense que je ne serais pas surpris qu'un jour, Québec solidaire adopte un discours anti-immigration. C'est parce que c'est pas... antinomique à la mentalité étatique qui est en général, la mentalité antilibérale plus précisément, qui est présente, en opposition à ce que je pense que nous, on défend les trois, c'est parce que tu sais, la discussion que nous autres, on n'arrête pas de répéter à tout le monde, là, c'est que la gauche voit ça comme oppresseur et opprimé, les conservateurs voient ça comme barbare et civilisation. Alors que nous, c'est libéral et anti-libéral, coercitif versus volontaire. Et ce n'est pas les mêmes actes de conversation.
Ah oui, mais... c'est pour ça que nous, quand on regarde ces débats-là, là, moi, je les vois dans la même gang. Moi, il n'y a pas un extrême gauche et un extrême droite. Moi, il y a juste 2 étatistes.
C'est, ouais, même ben que... non seulement ça,
c'est comme mais, ça que moi, je la vois, la réalité. Eux, ils voient des grandes oppositions là-dedans. Mais moi, je regarde ça exactement comme je regarde... un chrétien puis un protestant en 1600, je sais pas quoi, qui s'obstinent ensemble. Pour moi, vous êtes la même gang. Moi,
présentement, l'immigration, là, c'est red tape par-dessus red tape. N'importe quel entrepreneur qui fait des démarches pour aller chercher quelqu'un à l'étranger, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Puis malgré tout, il y a plein d'entrepreneurs qui font des démarches pour aller sponsoriser de l'immigration chez nous. Les gens apprennent le français très rapidement parce que souvent, on est dans une position qui s'est rendue dans les services qu'on a besoin du monde. Tu sais, au début, là, les Mexicains dans les champs, c'était juste ça notre idée de l'immigration. C'est plus ça pantoute, là. On a besoin de monde dans tous les secteurs économiques, puis surtout dans les secteurs de services. Bien, crime, si l'entrepreneur, présentement, avec un coût très élevé en termes de réglementation, il est prêt à faire la démarche quand même, imaginez-vous si on permettait aux gens d'aller chercher des immigrants à l'étranger d'une manière beaucoup plus simple. Comment qu'on en aurait plus? Puis comment qu'on réglerait beaucoup de problèmes de pénurie de main-d'œuvre un peu plus rapidement? Puis comment que tout s'améliorait, là, la qualité des services que vous avez.
Mais tu sais ce que je pense d'affaire des arguments de pénurie de main-d'œuvre, que j'achète pas du tout ces arguments-là.
Non, mais Vincent, j'utilise le mot parce que c'est le langage que le monde comprend, là. J'embarque dans ton affaire à côté demain matin. L'affaire, la réalité, là, c'est viens dire à ma femme dans sa pharmacie demain matin que ça n'existe pas à pénurie de main-d'œuvre, ça se peut que tu te fasses envoyer chier un petit peu.
Non, ça, je comprends. Mais le point que je pense qui est peut-être mieux de souligner, c'est que si on a plus d'immigrants, peu importe leur type de qualification, ils vont nous permettre de se spécialiser davantage. Donc, disons que demain matin, on augmente le nombre d'immigrants non qualifiés, puis ce que ça fait, c'est puis on va y aller dans le stéréotype, à la limite, borderline raciste, qui dit ça va tout être des femmes de ménage, ça va tout être des éducatrices en garderie. Bien, so what? So what? Je veux dire,
c'est ça qu'on a besoin.
Une des vertus, par exemple, puis ça, il y a un article très fameux dans Journal of Human Capital par Delia Furtado, qui montre que l'immigration, les endroits où il y a beaucoup d'immigrants, particulièrement des immigrantes femmes qui produisent une addition à l'offre de services de garde, le retour au travail des mères de jeunes enfants est beaucoup plus rapide et beaucoup plus prononcé suite à la naissance d'un enfant. Donc, des femmes qui sont hautement qualifiées, qui sont nées aux États-Unis, rentrent sur le marché du travail plus tôt et ne voient pas leur capital humain se détériorer par non-utilisation pendant un an ou deux de non-activité sur le marché du travail. Ça nous permet de se spécialiser, de libérer des ressources à des fins plus efficaces parce que par accident, c'est que le prix des services de garde diminue. Si c'est des médecins en opposition, ben c'est encore mieux parce que maintenant, on a plus de services.
Est-ce que c'est cet article-là, excuse de te couper? Là,
c'est exactement lui.
Oui, c'est lui. Hein?
C'est exactement lui de Delia Furtado. Crème, t'as spoté ça vite, hein? T'es efficace.
Oui, c'est pas pire.
Ben écoute, moi, je l'avais entendu dans une conférence, puis c'est une dame vraiment super mild-mannered, comme on dit en anglais, super très, très, tu sais, posée. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, tu sais ce que tu viens de faire, ce que tu viens de montrer, c'est que ça n'a aucun effet, le mix, le skill mix, on appelle, parce que dans la littérature sur l'immigration, ça s'appelle le skill mix, le sujet, parce que si tu augmentais toutes les, mettons que tu prends toute la population générale, puis tu prends tous les types de qualifications, puis tu augmentais dans chacune des catégories de 1% le nombre de travailleurs, tu vas avoir aucun effet négatif, parce que tout ce que tu fais, c'est tout augmenter proportionnellement. Mm-hmm. L'argument des gens sophistiqués en matière d'immigration qui dit peut-être qu'il y a des coûts de l'immigration, c'est si l'entrée d'immigrants est particulièrement dans un secteur dans lequel les travailleurs ne peuvent pas se déplacer dans d'autres secteurs. Donc, disons des travailleurs peu qualifiés. Tu as une grosse entrée de travailleurs peu qualifiés qui rentrent dans un secteur, puis là, dans ce secteur-là, les salaires vont baisser beaucoup, de telle sorte que là, les natifs ont une perte salariale. Mm-hmm. Là, il y a un débat très sérieux sur ça, où est-ce qu'on n'est pas sûr si vraiment il y a un effet. Mais ce que Furtado montre, c'est que même s'il y a ça, il y a des bénéfices très importants dans d'autres secteurs qu'on pourrait peut-être se servir pour compenser les perdants suite à un ajustement, pour peut-être qu'ils puissent se déplacer maintenant dans les nouveaux secteurs en demande, etc., etc. Mais c'était très efficace. Ce qu'elle a fait, c'est qu'à toute fin pratique, son article a tué un peu un des débats qui, en fait, a commencé à tuer un des débats qu'on avait entre économistes sur les effets, mais vraiment très granulaires de l'immigration. Parce même ceux qui disent qu'il y a un petit effet, disons, si tu as beaucoup de travailleurs non qualifiés qui rentrent, ils disent bien, l'effet est peut-être sur ce 10 à 15 de la population, il est significatif peut-être pendant 5 à 10 ans, mais il se
ressort. C'est beaucoup moins tranché que ce que les gens.
C'est pas genre les salaires vont baisser.
Non, c'est ça. Tu voulais parler, Vincent, là, d'un un truc qui a été publié dans le Cato. Je ne sais pas si c'est des auteurs que tu connais, Dirt Tower puis Nicolas.
Non, je ne les connais pas, mais. Non, je ne les connais pas.
Sur justement les monopoles, puis ce qui est raconté dans la presse, entre autres là-dessus, là, je me souviens d'avoir lu l'article il y a une couple de semaines, puis il disait que les. Je ne sais pas si je suis capable de retrouver le bout, là, à brûle pour point de même, là, mais ça disait le. En gros, là, ce qui est véhiculé dans l'opinion, ben, dans les médias par rapport au monopole, c'est pas nécessairement tout le temps. Ouais, c'est ça. Media bias and press coverage of monopolies. Là, ils disent dedans. Ben, je retrouve pas leur liner exactement là, qui disait là-dessus. Mais ah oui, c'est ça. We believe that the two sources of bias which have just been exposed may systematically screw the press depiction of monopolies. First, pro-audience bias may guide the media to overemphasize the harmfulness of monopolies and underplay their potential virtue. Je sais pas si c'était sur ce point je trouvais l'article intéressant.
Ben écoute, moi c'est plus parce que depuis une couple de semaines, puis une couple, en fait, depuis à peu près un an ou deux, t'as tous les gens qui parlent des GAFA ou de Big Tech.
Vincent, deux secondes.
Ouais, vas-y.
J'ai trouvé ce que je cherche depuis tantôt, que j'aurais aimé ça que vous ne changiez pas de sujet avant que je le retrouve.
Ben écoute, on peut faire un circle back.
Non, ça ne sera pas bien long. Tu vois-tu mon écran, Frank?
Ouais, donne-moi deux secondes, je vais te partager un peu. Je pense qu'il faut que j'arrête ça. Je repartage, puis j'y vais avec ça.
Ça, c'est... Tu sais, les chiffres souvent des bureaux de statistiques des gouvernements, c'est un peu de la merde, là, dans le sens que c'est tout le temps lagué de 3-4 mois, puis il y a un réajustement, puis tout ça. Mais à cette heure, on a quand même des outils pour avoir des estimations qui sont quand même le fun. Tu sais, t'arrives, puis tu pars de 2020, le baseline, c'est 2020, le nombre de job postings disponibles sur Indeed aux États-Unis. Bon, on voit tout de suite les problèmes dans la statistique. Là. Il n'y a pas juste Indeed qui a des postes, et ainsi de suite. Mais,
mais ça veut dire de quoi?
Ça veut dire de quoi quand même, parce que c'est de la statistique en temps réel. Fait qu'en comparant avec... Oups, il est parti. Peu importe. Vous l'avez vu.
C'est pas grave, les gars, les gens ont vu.
Les gens ont vu. Je vais arrêter de sharer ça. Mais c'est l'idée avec ça, c'est que ce que tu vois, c'est que vraiment depuis le début de la pandémie, le février 2020, sans arrêt, la quantité d'affichage de postes sur Indeed augmente. Puis c'est inlassable. Puis à partir d'avril, qu'est-ce qui se passe? Ben, oups, ça recommence à baisser. Fait qu'évidemment, tu n'es pas dans une position où est-ce que tu dis que le taux de chômage va augmenter demain matin. Par rapport à janvier-février 2020, tu es vraiment dans une position qui a beaucoup, beaucoup plus de postes affichés présentement qu'avant. Donc, il y a une pression encore sur les salaires, ainsi de suite. Mais on peut commencer. C'est un des early signs, si on veut, que les ajustements de marché sont en train de s'opérer. Donc, est-ce que c'est des entreprises qui ont fermé? Est-ce que c'est des entreprises qui ont arrêté de faire certains projets? Est-ce une baisse d'investissement due au fait qu'on a augmenté le taux d'intérêt? Vous comprenez que l'économie étant multifactorielle, ça peut venir d'un peu partout, les raisons qui expliquent ça. Mais on est vraiment dans une position où est-ce que là, présentement, sur le marché du travail, le thème de pénurie de main-d'œuvre est encore populaire, mais on risque éventuellement de le mettre au rencard dans quelques mois, années, parce que les postes vont finir par se combler. Parce qu'avant d'avoir un taux de chômage plus élevé, il va falloir passer au travers de ce batch de postes-là à combler éventuellement. Puis ça va se faire de manière probablement quand même assez progressive. C'est ça un marché qui s'ajuste, sauf regardez c'est quoi un ajustement de marché. Ça a pris 2 ans à monter, ça va peut-être prendre 2 ans à baisser pour redevenir normal. Puis ça va peut-être prendre 2 ans encore avant que le taux de chômage commence à monter puis qu'on se dise « Hey, on est peut-être en récession. » les gens, des fois, on a tendance à analyser l'économie un peu black and white, puis dire cause-conséquence, puis boum, c'est là que ça bouge, puis il y a ça, il arrive ça. C'est plus lent quand même, les ajustements économiques. Fait que, excusez, j'ai fait
non, une parenthèse. Non, mais écoute, peut-être ça vaut la peine de rajouter quelque chose. L'emploi, c'est généralement l'indicateur qui déplace le plus lent, qui est le plus...
C'est très
celui
lent.
Celui qui a le longest lag, donc le plus long délai de réponse. Généralement, ce qui s'ajuste... Parce que, en fait, c'est facile à comprendre pourquoi l'emploi s'ajuste plus difficilement. Un, tu as des contrats de travail. Des contrats de travail, c'est pas... ça coûte pas rien à couper. Des fois, tu veux pas couper des employés parce que... Un employé, tu sacrifies toute la production qui vient avec. Tu préférerais peut-être sacrifier un peu ses heures ou réduire un peu son taux salarial pendant un moment. Tu aimerais t'ajuster sur d'autres marges parce que c'est quand même assez intense. C'est pas comme si tu pouvais juste moduler le nombre d'heures très facilement. Ça, c'est une des raisons que le travail est difficile de s'ajuster dessus. Généralement, en fait, l'ajustement, quand tu vois le nombre d'emplois baisser, c'est pas parce que les firmes, genre, licencient 1 ou 2 travailleurs. La plus grande portion va venir de firmes qui font juste fermer. point barre.
Ouais, puis tu vois, en fait,
là, tu as des emplois qui disparaissent pendant un moment.
Le même graphique canadien, tu verrais deux creux assez forts où est-ce que tu as vraiment une drop d'affichage de postes. Puis il y en a une qui est vraiment synchronisée début de l'année carrément, là, en 2022. Puis on peut penser qu'il y a probablement des affichages de postes liés peut-être aux cliniques de vaccination, peut-être aux cliniques de dépistage avec la COVID, des choses comme ça. Ou à des changements de programmes gouvernementaux, parce que l'emploi gouvernemental est quand même assez fort au Canada. Fait que tu sais, il y a des choses comme ça qui sont vraies. Puis, mon point tantôt, tu sais, que je faisais lien un peu avec l'entrepreneur, quand tu arrives, tu te dis la pénurie de main-d'œuvre, c'est un concept, j'aime pas tout ça, mais les entrepreneurs, quand tu arrives et tu es dans une position où est-ce que les postes sur Indeed, par exemple, s'accumulent sans être comblés de cette façon-là, bien, eux autres, la pression au jour le jour, il y a récente. Pas capable d'avoir d'entrevue, pas capable d'avoir de CV. S'il y a une entrevue, c'est eux autres qui se font passer en entrevue. Puis à un moment donné, tu la vois aller. Là, ça fait 2-3 mois, c'est pas grave. 24 mois, ça commence à taper ses nerfs. Là, ça met de la pression ailleurs. Tu peux perdre ton gérant parce qu'il n'est plus capable. Il est au bout du rouleau. Ta fille des ressources humaines, elle ne veut plus rien savoir parce que... Elle dit « Crime, c'est quoi ma job, c'est de passer des entrevues au monde, j'ai plus personne à passer en entrevue. » Fait que t'as de la pression à l'interne qui devient grandissante. Fait que la pénurie de main-d'œuvre pour ce monde-là, c'est très, 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 très réel, peu importe le monde.
En fait, peut-être la chose qui nous réconcilierait pour les gens, là, c'est, puis si on peut aller au sujet des, je pense qu'on devrait peut-être aller au sujet
On va lire Souchi dans le montage, hein, Constant Pantin.
Ah, c'est vrai? Bon point.
Ouais, c'est en fait ce qu'il est en train de dire, c'est Frank va se casser la tête.
C'est ton problème, Frank. Hein? On était ouais, au ça. Début que tu étais un peu sadomaso.
Tu ne crois pas l'Assemblée nationale.
Si tu parles de pénurie de main-d'œuvre dans le sens que les employeurs, pour le salaire qu'ils offrent, sont pas capables de se trouver des employés, c'est vrai. Si c'était dans un libre marché sans réglementation, la réponse est facile. Ce secteur-là devrait juste perdre des travailleurs pendant que les autres se déplacent vers d'autres secteurs, puis ce ne serait pas un problème. Mais il y a la possibilité que ça, c'est peut-être là que les gens vont mieux comprendre. Un employeur, il ne te paye pas ton salaire. Ton salaire, ce n'est pas ce qui te coûte. Ce qu'un employé te coûte, c'est la formation, la paperasse administrative, les gens qu'il faut que tu embauches pour gérer cet employé-là et son salaire. Ouais. Tu ajoutes tout ça ensemble, ben, t'as tous les coûts, là, plus la taxe sur la masse salariale. Généralement, là, tu devrais te mettre dans ta tête que c'est dépendant de l'industrie. Si tu embauches quelqu'un à 40 000 $ en réalité, il te coûte quelque part entre 50 et 55, 56 000 $ par année. Bien, quelle portion du overhead de 40 000 que tu payes pour l'employé qui est juste des coûts réglementaires, du compliance cost? Des compliance costs qui n'augmentent pas nécessairement la sécurité au travail ou a des bénéfices sur des externalités ou des problèmes X ou Y. Et donc, cette portion-là, si tu éliminais ce fardeau réglementaire-là, de combien tu pourrais augmenter les salaires de telle sorte à ce qu'une industrie puisse embaucher plus? Surtout si, et ça c'est vraiment important, si le fardeau réglementaire n'est pas égal par industrie. La réalité, c'est que les emplois hautement qualifiés comme professeurs d'université, il n'y en a pas de fardeau réglementaire tant que ça pour nous, en proportion de ce qu'on coûte, disons 90 % du coût d'embaucher un prof d'université, c'est son salaire. Mais dans un restaurant, peut-être que le salaire, c'est 50-60 % du coût d'embaucher quelqu'un comme travailleur dans un restaurant. Bien, plus la proportion entre le salaire et le coût de l'employé en soi est importante, plus un secteur a un effet « uneven », donc c'est pas réparti également pour tous les secteurs, là, ces secteurs-là vont souffrir. Puis là, tu vas avoir des gens comme notre bon ami Laurent Proulx qui dit que c'est dur pour lui de trouver du monde. C'est dur pour lui de trouver du monde à des salaires compétitifs, surtout que la plupart des coûts qui se retrouvent avec un employé n'ont aucun rapport avec le salaire qu'il doit verser. Enlever des réglementations pourrait permettre à Laurent d'augmenter les salaires pour réattirer des travailleurs beaucoup plus que l'inverse. Là, je pense que la pénurie de main-d'œuvre devient plus pertinent comme concept.
Oui, puis tu te fais voler ta main-d'œuvre potentielle, tu te la fais voler par le gouvernement parce qu'il engage 75 000 en 3 ans.
Oui, puis en plus, tu payes pour ça avec tes impôts.
En plus. Aussi, tu sais, je veux dire, mettons, tu as parlé de restauration. La journée que le gouvernement te fait fermer 5 fois, ou c'est pas 6, Puis que les gens...
Ouais, des préavis de 3 jours, soit dit en passant.
Des fois moins. Le terme sécurité d'emploi a été développé pas mal à ce moment-là. Fait que tu viens de sortir des gens d'un marché qui aimait. Fait que ça, c'est sûr que ça a un impact. Puis, t'as des tendances aussi de société. C'est plate à dire, mais à un moment donné, tu essaies de compenser un employé, oui, avec le salaire, puis tu dis il faut que j'augmente le salaire pour certaines choses, compenser le fait qu'il y a des soirs, des fins de semaine ou tout ça. Mais tu es rendu dans un univers où est-ce que, écoute, les bas taux d'intérêt, le coût de la vie, il n'y a pas de problème, il y a de l'argent qui rentre avec des chèques parce que tu as fait des bébés, des choses comme ça. Tu es dans une position que travailler plus, travailler moins. Okay, mais là, je l'ai déjà dit, là, un couple qui vit avec 80 000 puis un couple qui vit avec 120 000, dans le budget, là, la différence est minuscule. Minuscule. Parce qu'il y a tous les impacts des crédits familiaux et ces choses-là. Fait que t'es vraiment dans un monde où est-ce que tu te dis, ben écoute, OK, là, tant qu'il n'y aura pas de pression ailleurs, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, ce qu'on commence à voir tranquillement, puis moi, je pense que c'est ce qui se cache un peu derrière le tableau d'Indeed qu'on a vu, ben là, l'inflation est un réel problème dans le budget familial de bien des gens. Puis, après ça, être chicané une couple de fois avec le chum, après avoir coupé une couple de dépenses, ça ne fonctionne toujours pas. Mais là, on commence à penser à rajouter des heures de travail pour essayer d'augmenter le revenu familial. Fait que là, ça va éventuellement aider à combler, mais c'est de l'usure, le temps que ça prend faire ça. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'arrive, je regarde une bonne business, rentable, profitable, fermer les livres, pas faillite, là, vraiment fermer parce qu'ils disent, écoute, je suis tanné. Un, j'ai pas d'acheteur, puis deux, je suis tanné. Je suis écœuré, j'ai pas de monde. Tu préfères fermer, même s'il y avait encore des profits. Fait que des fois, c'est même pas, tu dis, je peux pas jouer ses salaires. J'ai vu un restaurateur, il dit, crème, j'ai climatisé ma cuisine. Tu fais de la cuisine à 22 degrés, là. C'est pas tout le monde qui a la liberté d'avoir ça, là. J'ai climatisé ma cuisine, j'ai des salaires d'assistant gérant pour un plongeur. Dans le business, je paye plus que la business. J'ai de la misère à avoir du monde. Il dit, 9 à 5, j'ai pas de misère. Entre 9 et 5, j'ai pas de misère. Mais pour le reste, je suis pas capable d'avoir du monde. Puis là, tu as un nouveau phénomène de société. Avant ça, c'était des postes qui étaient occupés par qui? Par des étudiants. Mais là, les étudiants, ils ont 25 ans, puis ils vivent chez papa puis maman. Fait que tu sais, tu es vraiment dans une position où est-ce que il y a des bouts qui ne fonctionnent pas. Pourtant, tu arrives, puis c'est là qu'on je fais le lien avec l'immigration. Tu dis, crime, est-ce qu'un immigrant voudrait faire ce job-là en dehors du 9 à 5? Oui, définitivement.
Ouais, parce que le livreur de Uber Eats ou DoorDash ou peu importe, là, dont une certaine chroniqueuse se plaigne qu'il parle pas français, là, ben moi c'est plate, là, mais j'en commande souvent là, des trucs via ces services-là et je n'ai encore vu aucun francophone dit de souche. Là. Je ne sais pas si on a encore le droit de dire ça.
Ah, oh, il y en a un peu. Ça m'est arrivé.
Mais je te jure, Yann, j'en ai jamais vu. Je ne te peux pas dire que j'ai commandé 450 fois, là, mais je peux te dire qu'à toutes les fois que j'ai commandé, c'était des gens qui brûlent pour point de même. Je te dirais que ça avait l'air des gens qui arrivaient soit d'Haïti, de Tunisie, des places comme ça.
Oh, oui. Ils sont prêts à travailler. Go! Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, quand je les entends moi, parler à l'Assemblée nationale, on va mettre des seuils d'immigration. Mais on tabarouette, ces gens-là, ils viennent nous aider, ils font une christie de bonne job, ils comblent exactement les besoins qu'on a dans la pénurie de main-d'œuvre. Puis là, on veut les limiter.
Mais c'est parce que sinon, c'est quoi la solution à ça? Si tu veux pas, mettons, tu te dis « OK, parfait ». On va faire ce que, mettons, le Parti québécois veut. Là. OK, on lui donne ça, on baisse de 50 000 à 20 000, mettons, par année. Qu'est-ce qu'on okay. fait pour combler les emplois manquants? On fait comme Pierre Fitzgibbon a répondu à certains entrepreneurs qui, pendant la pandémie, vous avez juste à déclarer faillite.
La réponse à ça est assez simple. C'est que si les immigrants étaient particulièrement en besoin dans certains secteurs, right? Une possibilité, ouais. c'est que tu auras une substitution vers davantage d'utilisation du capital. Si ce que tu fais...
Oui, robotisation.
Exactement, parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est que, disons que la demande... Quand la demande pour mon service augmente, right, ça veut dire que le prix que les consommateurs sont prêts à payer va aussi augmenter. Mais moi, ma réponse comme entrepreneur, c'est que je veux augmenter la quantité d'intrants que j'utilise, tant de capital que de travail. Mais si je ne peux pas augmenter la quantité de travail parce que il y a zéro augmentation, il y a zéro extra travailleur, ou que je ne peux pas augmenter le salaire pour attirer des gens, bien, quelle variable que je peux jouer dessus plus facilement? Si tu fais en sorte que, disons, l'offre de travail est beaucoup plus inélastique, dans ce cas-ci, c'est ça qu'on veut dire, bien, ma réponse, c'est de devoir m'attaquer sur l'offre d'aller voir les offrandes de capital et de remplacer des travailleurs par des machines.
Ou réduction du nombre d'heures. Là, ce que tu vois, hier, je suis allé au centre d'entraînement, au gym, où je vais avec ma blonde, puis il y avait sur une pancarte où ils mettent les nouvelles comme du jour, je ne sais pas trop. Là, ils ont un genre d'affiche. Puis dessus, ça disait « Veuillez noter qu'à partir de telle date, les heures d'ouverture seront avec un commis de temps. Après ça, tu peux rentrer en scannant, mais il n'y aura juste personne. » Fait que si jamais tu demandes une serviette, une bouteille d'eau, whatever, il n'y a personne. Tu t'organises avec tes trucs, tu as rentré avec ta puce. Puis c'est comme ça. Mais avant, mettons, tu avais un commis jusqu'à 10-11 heures le soir. Maintenant, ben, à 8 heures, il va être parti. C'est une manière, j'imagine, qu'ils ont trouvé. Ben, ils n'ont pas le choix. Et s'il n'y a personne, comment tu règles ce problème-là?
En t'arrangeant pour que si un entrepreneur veut aller chercher de l'aide à l'étranger, que sa facture en temps puis en dollars soit parfaitement raisonnable. Ça veut dire que ça ne prend pas 18 mois faire une demande puis être accepté pour aller chercher des gens à l'étranger, puis que ça ne coûte pas des milliers et des milliers de dollars. Tu as besoin d'aide à l'étranger, ton processus, si ça prend dans 3 mois, parce qu'il y a des vérifications à faire. Là. On ne dira pas qu'il n'y aura pas de vérif à faire.
Mais les gars, je veux juste pour le fun, là, j'aimerais ça qu'on souligne de quoi pour les auditeurs. À quel point dans la conversation, là, est-ce que les trois, on s'est plié aux stéréotypes que tu entends souvent dans les médias au Québec, particulièrement les médias francophones, de ce que la droite croit? Je pense qu'ici, là, les trois, on est probablement trois des figures de la droite, quote unquote, là, parce que tu savais que j'haïs le terme, oh. J'haïs au même titre que j'haïs le terme.
Mais ça existe pour simplifier.
Mais mettons que je vais le dire, je l'utilise pour simplifier. On est pas mal les trois des personnes qui sont les plus en vue à droite. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Puis il n'y a pas un gros échantillon. Disons qu'on est 3 sur 30, donc disons 10% de l'échantillon. Puis les trois observations ici sont quoi? Assez. En fait, regarde, on est allons-y comme ça. Frank, est-ce qu'on augmente le nombre d'immigrants qu'on admet au Québec, oui ou non?
Ben, moi, je ne pensais pas à moi de décider, mais si tu me le demandes personnellement,
non, mais je pense qu'il devrait avoir une limite.
Non.
OK. Ben voilà, les deux, vous avez limite, répondu. Il n'y a personne
dans la limite, je pense qu'elle va s'imposer par la
moi, je pense que dans une récession, ça se peut que tu n'aies juste 20 000.
Oui, bien, ça tombe avec les récessions. Tu regardes juste aux États-Unis, il y a des estimations du nombre de travailleurs illégaux. Puis si tu prends les cycles économiques américains, ça explique comme tu prends le R-squared, ce qui reste de non expliqué par les choses autres que les récessions. Bien, les récessions expliquent comme 75%. Le reste, c'est tous les autres trucs que tu pourrais trouver qui augmenteraient le FIT. Mais c'est des peanuts, là, ce que les mouvements du nombre d'immigrants. Largement, bon, c'est par des changements de politique qui vont avoir un effet, mais les récessions expliquent bien gros le nombre que tu peux admettre. J'ai pas dit de les forcer de venir, là, parce que ça, il y a un épisode de l'histoire américaine où ils forçaient des gens à venir.
Okay. Ouais. Je suis pas en train de. Mais j'aime pas non plus, honnêtement. Mais... ça, c'est un truc dont on parle jamais. Là. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est les promesses qu'on fait miroiter à ces gens-là qu'on invite.
On devrait même pas les inviter non plus, hein, by the way. C'est pas.
Non, mais je vais juste vous raconter une anecdote. À un moment donné, j'avais une voiture usagée que j'ai vendue. Et puis, il y a un monsieur très sympathique qui l'a acheté parce que, bon, il arrive, il a besoin d'un véhicule. Je pense qu'il venait du Cameroun de mémoire, en tout cas, un pays d'Afrique qui a des francophones qui est dans cette zone-là. Et le gars, il me dit, lui, il était représentant, je pense, de. Je pense qu'il était représentant chez Coke, là, un truc comme ça. Il était représentant chez Coca-Cola. Il avait une formation, en marketing, un enfant de même. Et puis là, il m'expliquait qu'il avait de la vaisselle chez Normandin. J'ai rien contre Normandin, j'ai rien contre les plongeurs non plus. Je l'ai faite quand j'étais adolescent, puis ça en prend, c'est bien correct. Sauf que lui, ce qu'il me racontait, c'est que quand il était allé au genre de... parce qu'il y avait un kiosque des services immigratoires québécois. Ils y avaient dit « Oh, et des gens en marketing, nous, on en a vraiment besoin. Ouais. » Lui, il pensait arriver ici et puis travailler là, dans une grande banque ou en marketing ou je ne sais pas trop quoi. Finalement, ben, il lave de la vaisselle dans un restaurant. Moi, en tout cas, moi, personnellement, ça, je ne sais pas vous, moi, ça me pose un problème moral. Là. Tout ce qu'on fait pour... retarder l'entrée sur le marché du travail de ces gens-là, que tu as des médecins qui conduisent des taxis à Montréal ou ce genre de... Moi, tout le genre de protectionnisme qui est à l'endroit, venez, on en a besoin. Un coup qui arrive, vos diplômes, c'est de la merde. Allez au champ.
Ben, je veux dire une affaire. Dans le milieu financier, c'était pas rare que tu tombais sur quelqu'un avec un CV réellement impressionnant qui venait du Moyen-Orient. Puis, qui n'était pas capable de trouver un job. Je n'ai pas passé en entrevue moi-même. Le problème que j'avais, c'est que j'avais pas de travail à offrir. Moi, je recrutais des travailleurs autonomes. Fait que, il n'était pas prêt à se partir en entreprise. Hein, il venait d'arriver et tout ça, puis il trouvait ça tough. Mais tu regardais le CV, le gars était très qualifié. Là. Puis, mais c'est la fin, je dis, ouais, mais moi, j'ai pas un salaire puis des heures, c'est vraiment juste c'est vraiment un travailleur autonome, je vais te coacher à me bâtir ton entreprise, tout ça. Fait que là, ouais, il déchantait assez vite. Mais ce qu'il me disait, c'est qu'il envoyait son CV dans les banques puis il n'y avait jamais de retour d'appel. Présentement, fast forward, 4 ou 5 ans plus tard seulement, c'est le chaos dans les banques canadiennes, présentement, dans le service à clientèle. Il manque de monde. Mais les gars que vous n'avez même pas passé en entrevue, il y a 4-5 ans, pourquoi vous ne les aviez pas pris? Ils seraient déjà formés puis ils seraient déjà efficaces. Tu sais, maintenant, tu es là, tu dis, les Québécois, on se dit ouvert sur le monde. C'est une vraie joke, cette affaire-là. C'est vraiment une joke. On est zéro ouvert sur le monde. On est fermé sur nous autres même. Mais on était dans un monopole, fait que désolé, c'est maintenant fini, là, mes affaires de pétage de coche, de pénurie de main-d'œuvre et tout. Là.
Non, mais écoute, ça va être...
Non, mais c'est parce que je pense que il y a beaucoup de gens, je pense, qui regardent le podcast, qui ont soit une entreprise
ben oui.
ou qui ont du personnel à gérer, puis je pense que c'est un problème qui les touche, fait que c'est, je pense que c'est important.
Un vrai problème. Parce que ça use les gestionnaires d'entreprise, ça use les gérants, ça... Tu sais, je veux dire, quand tu manques de personnel, là, puis que t'es gérant dans une pharmacie, c'est parce que c'est toi qui as fait la caisse, là.
Mais écoute, juste encore pour enfoncer le clou sur ce point-là, là, nos auditeurs, je suis sûr que si on leur demandait, je suis sûr que la distribution, c'est comme la réponse qu'on a répondu, nous, à la question, est-ce que le gouvernement devrait décider combien d'immigrants peuvent rentrer ou ne pas rentrer au Québec? Peut-être à part certains critères qu'on pourrait dire comme « faut pas que tu sois malade quand tu rentres », que tu n'aies pas une maladie contagieuse, genre que tu n'as pas la tuberculose ou... Des trucs pas mal, tu sais, les codes extrêmes.
Oui, puis t'es-tu sur une liste du SCRS et des affaires de même?
Oui, oh, t'es-tu un terroriste? T'as-tu commis des crimes de guerre? Hormis des clauses exceptionnelles, disons, là, est-ce qu'il devrait avoir une restriction quantitative? Parce que là, c'est ça que c'est. Là. C'est une restriction quantitative. On dit le nombre qu'on peut accepter. Je suis sûr que si on demande aux auditeurs, je suis prêt à mettre ma main au feu. Puis si les auditeurs veulent essayer, là, allez-y, répondez dans le Patreon ou des choses comme ça. Je suis prêt à même mettre ma main au feu que la distribution, ça va être 75-25 pro-immigration. Puis, ben, est-ce que ça fit avec ce qu'on dit de la droite libérale au Québec?
C'est même pas pro-immigration.
Je comprends pas. Ce qui me gosse dans notre conversation, là, qui me fait un peu monter le ton, c'est que, Batin, ce que je sais que la majorité des gens de la droite libérale au Québec pensent, c'est zéro ce que les médias prétendent.
C'est pour ça, Vincent, que je te disais avant l'histoire avec Marine Le Pen et autres, parce que là, dans le cerveau binaire de bien des gens, droite, je regarde partout dans le monde qu'est-ce qui est associé à ça, puis là, t'as des trucs débiles que tu vois passer du genre, lui, de toute façon, il est comme Marine Le Pen et Bolsonaro, puis là, t'es comme,
exercice que tu as fait de prendre des propositions et de dire qui a dit ça, là, moi j'ai trouvé que c'était super. Parce que les gens, si tu dis droite, ils vont dire ben là, ça veut dire que tu devrais avoir des régimes de retraite moins généreux, qu'il faut que tu travailles plus longtemps pour se qualifier, il faudrait que tu ailles plus de police qu'autre chose, moins d'immigrants. Ben, à part la question de l'immigration, quand tu regardes le programme d'Emmanuel Macron versus, disons, Marine Le Pen, il y a des différences de degré sur certains sujets. Des fois, il y a des différences de nature, mais quand il y a des différences de nature, ils vont dans la direction contraire de ce que tu t'attends. Macron, c'est supposé être le méchant, le gentil de centre-gauche, mais lui, il va augmenter la retraite qui est présentement à 62 ans en France, à 65. Ah oui, je pense que Marine Le Pen a la même position que Jean-Luc Mélenchon, qui est le candidat de l'extrême-gauche, la France insoumise, qui, lui, veut la baisser de 62 à 60. Est-ce que vous réalisez, là, est-ce que vous réalisez que quand il y a des différences entre les candidats, ils ne vont pas du tout sur le schéma que vous vous êtes fait de prédiction de quelle direction ces différences-là devraient aller. Le fait que je dois expliquer aux Québécois, puis je veux dire, je passe du temps en France, j'ai beaucoup de sympathie avec des collègues français, je suis associé avec un think tank en France, un think tank en France et en Suisse, là, donc dans la francophonie européenne. Et le divorce complet qu'il y a entre ce qui se dit au Québec et ce qui se dit là-bas, je comprends pas et je comprends pas pourquoi il n'y a personne qui les rappelle à l'ordre sur ça. Je pense même qu'il
y en a la capacité, Vincent.
Je ne sais pas. Peut-être un manque d'intérêt.
Ouais. Mais c'est un manque de. C'est une obsession à utiliser des slogans pour accoler ça à des gens. C'est ce que je disais dans la chronique auquel tu fais référence. Les faits ne sont pas importants pour ces gens-là. Le but, c'est... c'est la même chose. On a pris Marine Le Pen, mais dans le temps, on aurait pu prendre Donald Trump. Moi, la discussion que j'avais avec des gens, les gens me disaient « Ouais, mais regarde, même les républicains l'ont attaqué. Ouais, » Mais sais-tu pourquoi les républicains l'ont attaqué? Pas pour ce que tu penses. Ils l'ont attaqué parce qu'ils trouvent que c'est un démocrate, un interventionniste et un dépensier. C'est ça les critiques que les gens avaient contre lui. C'est pas pantoute parce que c'est un apôtre du libre-échange ou de ça. Pourquoi? C'est complètement l'inverse. En fait, les critiques que les gens faisaient de Trump sont complètement l'inverse de ce que nous, on racontait ici. Ce qu'on racontait ici, c'est « Hey, ce gars-là, c'est le alt-right libertarien, puis lui, il veut abolir les tu sais, il veut que ce soit le capitalisme sauvage. » C'est le contraire. Les républicains qui l'haïssaient, c'est parce qu'il tient le discours des démocrates d'il y a 20 ans.
Passez aux deuxième guichet, s'il vous plaît.